C'est pas du vent. François Bernard.
Bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur la planète. Merci de votre compagnie sur RFI, à l'écoute du magazine de l'environnement. Nous sommes ensemble pendant 50 minutes. Tout à l'heure, nous irons au Mali dans une réserve de biosphère avec notre reporter Agnès Rougier pour évoquer la transhumance des animaux sauvages et leur cohabitation avec les animaux domestiques.
Sama, ça veut dire éléphant. Koulou, ça veut dire la colline des éléphants. Et c'est dans ce site qu'on rencontrait le plus grand nombre de peuplements d'éléphants. Et ces éléphants faisaient la migration entre la zone qu'on appelle Alata en Mauritanie et qui descendait au Mali, qui continuait vers la Guinée. Maintenant, c'est coupé carrément, il n'y a plus d'éléphants en Mauritanie et la ligne qui continuait sur la Guinée est obstruée.
Reportage donc dans une vingtaine de minutes dans la boucle de Baoulé avec Agnès Rougier. Juste avant TerraTech, la chronique des nouvelles technologies au service de l'environnement avec Dominique Dezonnet. Aujourd'hui, des systèmes GPS qui sont proposés aux agriculteurs et qui permettent d'ajuster la trajectoire de leur tracteur pendant les travaux des champs. Mais tout de suite, nous recevons notre invité du jour, Arnaud Apotheker, chargé du dossier des OGM à Greenpeace. Bonjour.
Bonjour.
Alors, 10 minutes d'abord qui sont consacrées à l'actualité de ce mardi 4 août. En commençant par cette flottille que Greenpeace et d'autres associations ont envoyée vers le détroit de Bonifacio en Corse pour y demander l'interdiction des navires transportant des matières dangereuses et exiger donc une protection de cette zone. Un vent fort, hein, d'ailleurs, qui soufflait en Méditerranée a un petit peu contrarié le déroulement de cette manifestation. Ça n'a pas empêché Antoine Fouché, qui est le directeur des programmes de Greenpeace, d'en expliquer les raisons à Joël Marcelot. Écoutez.
C'est un des endroits les plus merveilleux de Méditerranée. Et en même temps, c'est un passage très dangereux à la navigation avec de très très grands risques de couler. Et en dépit de ceci, il y a près de 3000 navires qui passent par an dans ce détroit, dont environ 10%, soit 300 navires qui transportent du pétrole ou des déchets chimiques, etc. Et dont chacun a le potentiel de détruire entièrement la biodiversité de la zone. Donc nous militons avec les représentants politiques et associatifs locaux pour que finalement on obtienne une protection totale de ce chenal du détroit de Bonifacio et pour qu'il soit interdit à la navigation dangereuse. En fait, c'est un des détroits parmi les plus dangereux au monde. Il est sur son périmètre le plus petit. Il y a simplement quelques centaines de mètres de largeur à l'endroit le plus dangereux. Simple erreur humaine peut amener le bateau à couler ou être sérieusement endommagé et en tout cas à répandre sa cargaison toxique sur ce qui reste un des trésors de biodiversité de la Méditerranée.
Antoine Fouché, donc, qui est directeur des campagnes pour Greenpeace. Arnaud Apotheker, le Grenelle de la mer s'était engagé le mois dernier à obtenir la création de cette zone protégée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça ne va pas assez vite? Ça a été remis en question?
Non, ce qui se passe, c'est que cette démonstration dans le détroit de Bonifacio est véritablement, je dirais, pour nous, la volonté de pousser le gouvernement à prendre des actes qui sont les promesses qui ont été faites pour le Grenelle. Évidemment, on se doute que le Grenelle de la mer s'est terminé il y a quelques semaines. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'effectivement on va pouvoir déclarer que 20% du territoire français marin serait une réserve marine. Mais en revanche, il est temps aujourd'hui, et nous le rappelons au gouvernement, le Grenelle est passé. Nous voulons que dès la rentrée, des mesures très strictes soient prises pour créer des réserves marines. Et le détroit de Bonifacio est véritablement emblématique pour cela. Cela fait plus d'une dizaine d'années. Cela fait que les associations de protection de l'environnement, les associations de pêcheurs demandent la protection de ce détroit.
Donc vous maintenez la pression pour que les choses aillent le plus vite possible.
Oui, nous voulons aussi profiter de la période où effectivement beaucoup de personnes, que ce soit des Français ou des étrangers, apprécient la beauté du site et sont sensibilisées au fait qu'il y ait aujourd'hui un besoin urgent d'empêcher le trafic de ces bateaux dangereux.
Alors dans l'actualité également, la polémique qui enfle concernant cette demande de l'État français qui veut que les producteurs de fruits et légumes remboursent environ 300 millions d'euros de subventions qui n'auraient pas dû être versées. C'est l'État qui a versé ces subventions pour compenser par exemple des baisses de revenus, mais l'Union européenne estime que cela a faussé la concurrence et réclame donc le remboursement de cette somme. Quelle est votre réaction à cette information?
J'allais dire, s'il ne s'agissait pas effectivement de problèmes qui seront à un niveau individuel très difficiles, hein, les pertes de revenus de nombreux professionnels qui ont du mal à joindre les deux bouts, on pourrait trouver ça ubuesque. On a donné des aides qui étaient vraisemblablement nécessaires pour maintenir ces exploitations, et des années plus tard, on les réclame en disant que ça a faussé la concurrence. Ça amène beaucoup d'autres questions, hein, au-delà de spécifiquement cette question ubuesque de rembourser des aides qui ont été données il y a quelques années. C'est, on doit se poser la question si les produits agricoles, hein, puisque c'est vraiment l'argument de la Commission, doivent être soumis à une concurrence complète, doivent être soumises complètement aux lois du marché, non seulement au sein de l'Union européenne, mais on voit les problèmes que l'on a eus et qu'il y a encore à soumettre l'agriculture aux lois de l'Organisation mondiale du commerce. Je crois que toute cette polémique, moi, me fait penser de façon plus globale qu'il faut repenser les systèmes agricoles et alimentaires. Ce ne sont pas des marchandises comme les autres. Elles doivent pouvoir être protégées, mais dans certains cas. Alors, on n'a pas été regardé pour l'instant ces subventions il y a quelques années. Qu'est-ce qu'elles ont concerné spécifiquement, mais donner des subventions pour aider à intensifier les pratiques agricoles, à utiliser plus de pesticides, à augmenter les surfaces, à travailler avec moins de personnel, à être plus compétitif sans penser au respect de la nature, me paraît une absurdité. En revanche, et je vais en terminer, donner des subventions pour favoriser des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, de mon point de vue, c'est là qu'il y a un champ, sans jeu de mots, à ouvrir. Et encore une fois, l'alimentation, ce n'est pas une marchandise comme les autres.
Et les journaux français, ce matin, évoquent largement cette question, comme a pu le constater Céline Missoff, qui a signé la revue de presse dans la matinale de RFI, présentée par Antoine Janton.
Bruxelles demande aux agriculteurs français de rembourser les aides qu'ils ont reçues dans les années 90.
Bruxelles, pour les Échos, a lancé son pavé agricole dans la mare, et cette décision tombe très mal pour la Tribune, qui rappelle que la filière fruits et légumes en France est déjà suffisamment fragilisée par la crise. Au total, les producteurs devraient rembourser plus de 300 millions d'euros de subventions. La Commission européenne estime en effet que ces aides sont antilibérales, qu'elles ont faussé la libre concurrence entre les pays. Et du coup, le gouvernement français va devoir s'atteler, d'après le Figaro, au casse-tête du remboursement de ces aides. Personne ne sait pour le moment comment tout cela va fonctionner, explique le quotidien. Seul petit indice donné par Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, la situation des producteurs qui sera examinée au cas par cas pour ne pas pénaliser les plus fragiles, qui eux n'auront pas à rembourser ces sommes. Mais les producteurs, fragiles ou pas, ont déjà dit que de toute façon, ils ne donneraient pas un centime.
Alors, favoriser la concurrence, vous disiez tout à l'heure, faut-il le faire ? Vous répondez non.
Non, ce n'est pas la direction à suivre. Alors, évidemment, je ne veux pas m'écarter complètement du système dans lequel on vit. Effectivement, il faut que les producteurs puissent vendre leurs produits sans être justement soumis à une concurrence, je dirais, par des producteurs qui utilisent des méthodes qui leur permettent d'avoir une plus grande productivité, moins de frais de travail, mais qui ne respectent pas l'environnement.
D'accord. Tiens, j'ai vu que le prix des graines ont progressé fortement lundi à la mi-journée sur le marché européen Euronext, porté par la remontée des cours du pétrole, disent les opérateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport qu'il y a entre les cours du pétrole et le prix des graines ?
J'ai peur de pas avoir une compétence économique suffisamment vaste pour faire le lien entre ces deux questions. Mais on s'est aperçu quand même, et ce n'est pas, alors les graines est un exemple particulier, mais ce qu'on appelle les matières premières agricoles sont extrêmement liées au cours du pétrole, tout simplement parce que l'on vit dans une économie, y compris une économie agricole, extrêmement dépendante du pétrole, hein, pour la fabrication d'intrants de synthèse, pour le transport des marchandises, etc. Et que donc toute hausse du pétrole renchérit les matières premières agricoles et vraisemblablement donc aussi les semences.
D'accord. Alors, c'est notre traditionnelle pause musicale maintenant, Arnaud Apothécaire, avant de poursuivre notre conversation dans 3 minutes, le temps d'écouter Crystal Warren, My Third Love, ça s'appelle. My third love had a beautiful gaze. She was there from the chair to the wonderful day. Jealousy that finally drove me away. We held love with virgin hands, too young to know, too shy to ask. So we lay in the bed with the thoughts in our heads, a green gift. Christelle Warren, Arnaud Apothécaire, qui est chargé du dossier des OGM à Greenpeace, est l'invité de C'est pas du vent ce mardi. Merci à vous d'être en direct sur la Radio Mondiale. On pourrait peut-être commencer cet entretien spécifiquement consacré aux OGM en rappelant ce qu'ils sont, les OGM, rapidement.
Oui, on va essayer en deux mots. Hein, on va parler des plantes aujourd'hui, ouais. Parce que c'est le sujet qui est quand même le plus préoccupant. Eh bien, des plantes OGM, ce sont des plantes comme du maïs, du blé, du riz, dans lequel on a introduit dans un laboratoire des gènes étrangers qui peuvent venir d'une autre espèce, voire même d'un autre règne. On peut introduire des gènes humains dans du blé, par exemple, pour lui donner de nouvelles propriétés. Et c'est cela qu'aujourd'hui, on dissémine sur des centaines de millions d'hectares à travers la planète, avec la caractéristique majeure de ces OGM, c'est que comme on a introduit un gène dans le patrimoine génétique de ces plantes, ce gène va, par croisement, aller sur les cultures voisines, voire sur des espèces sauvages. Mmh. Et on ne sait aujourd'hui absolument pas prévoir comment vont se comporter ces plantes et ces gènes dans l'environnement.
Pour vous, cette mutation n'a aucune utilité sur le plan agricole ?
On peut trouver des utilités théoriques, évidemment, parce que depuis qu'on a découvert la structure de l'ADN et qu'on sait qu'on a un code génétique universel, en mettant le gène qui, je ne sais pas moi, permet la synthèse de l'hémoglobine dans une plante, et bien cette plante serait capable de fabriquer de l'hémoglobine qu'après on pourrait réinjecter aux êtres humains. Donc on peut trouver théoriquement des utilités. Le problème pour moi n'est pas l'OGM en tant que tel, c'est le fait de le disséminer dans l'environnement. Alors, aucune des utilités, des promesses qui ont été faites aujourd'hui avec les plantes OGM ne s'est manifestée. Aujourd'hui, les seules plantes OGM qu'on a, ce sont des plantes, je dirais, agronomiques, qui soit produisent elles-mêmes leurs propres insecticides, en n'oubliant pas qu'on va le consommer après, soit sont tolérantes à des herbicides et donc qui sont l'objet d'un package qu'on vend à l'agriculteur. On vend les semences et l'herbicide qui est avec et on arrose allègrement les plantes avec des herbicides. Mmh. Ça, ce sont pour moi des OGM totalement inutile. Et maintenant, il y a les promesses, hein, des OGM qui vont résister à la sécheresse, des OGM qui pourront pousser sur des sols abîmés à cause de l'irrigation et qui sont devenus salins, etc. Mais rien de tout cela n'a vu le jour aujourd'hui. Ce ne sont que des promesses.
Alors, mercredi, vous avez qualifié l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire, l'EFSA, de charlatanisme pour avoir rendu donc un avis favorable à la culture du maïs OGM, ça s'appelle le Monsanto 810, qui est interdite dans des pays européens, 6 au total. Expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, cet OGM a été autorisé il y a 10 ans sur la base d'une évaluation scientifique totalement incomplète, qui d'ailleurs, cela a été reconnu hein, par l'ensemble des États membres, puisqu'aujourd'hui, il y a des discussions extrêmement avancées au niveau de Bruxelles et des États de l'Union européenne pour revoir les procédures d'évaluation parce qu'elles ne sont pas bonnes. Et ce qu'a fait l'EFSA, au bout de 10 ans, un OGM doit être réautorisé. Et donc, on est dans ce processus. D'accord. Pour le Mont 810, qui est le seul maïs qui a été autorisé à la culture en Europe, et dont, vous l'avez dit, 6 pays ne veulent pas. Hein. Eh bien, on est dans ce processus de réautorisation, donc on a demandé un avis scientifique à l'EFSA, et l'EFSA n'a absolument pas regardé les publications scientifiques récentes qui montrent des problèmes de contamination de ce maïs Mont 810 sur des cultures de maïs voisines, les problèmes de coexistence, et surtout, elle n'a pas regardé ni les impacts à long terme, ni les conséquences socio-économiques que pourrait avoir la généralisation de ce maïs, alors que cela fait partie des règles européennes.
Mais pourquoi ? C'est quand même l'autorité européenne de la sécurité alimentaire, on pourrait.
Oui, mais ce que l'on voit, si l'on suit l'histoire de l'EFSA, qui a été créée relativement récemment, l'EFSA ne se base que sur les données scientifiques fournies par les industriels, qui demandent l'autorisation de leurs produits, ouais. Et n'a donné systématiquement que des avis positifs. L'EFSA avait donné déjà un avis positif sur le Mont 810, le gouvernement français, sur la base de nouveaux travaux scientifiques, a déclaré que finalement on n'avait pas la certitude de l'innocuité de ce maïs, a décidé de l'interdire. L'EFSA n'a absolument pas voulu tenir compte des dernières questions posées par le gouvernement français et par 11 autres gouvernements de l'Union européenne.
Alors Arnaud Apothécaire, où en est-on de ce combat justement qui oppose les pros et les anti-OGM ?
Alors, où en est-on de ce combat ? Je dirais, tristement, peut-être malheureusement, les pro-OGM n'ont pas été encore convaincus que finalement, les OGM sont une voie sans issue pour l'agriculture. Pour toutes les promesses qu'on nous fait avec les OGM, dont je vous ai dit un mot sur ces plantes tolérantes à la sécheresse, il y a d'autres méthodes pour essayer de les obtenir. Et on voit, par exemple, au Centre international de recherche sur le riz, on a trouvé des nouvelles variétés de riz qui peuvent résister, développées par d'autres méthodes qui sont moins artificielles, qui sont moins anti-nature que ces OGM. Donc aujourd'hui, le combat est de convaincre que, d'une façon générale, les OGM peuvent être utilisés éventuellement en milieu confiné pour fabriquer des médicaments, des plastiques ou d'autres, mais ne doivent surtout pas être relâchés dans la nature.
Et qu'est-ce qui se passe dans les pays où la culture OGM est pratiquée à grande échelle ? Est-ce qu'on a du recul suffisamment pour en parler ?
On n'a sans doute pas suffisamment encore de recul, mais on voit déjà les problèmes apparaître. En Argentine, on voit de nombreuses apparitions de mauvaises herbes qui deviennent tolérantes à des herbicides, hein, depuis qu'on a autorisé le soja, le fameux soja Roundup Ready. Le soja OGM, c'est 99% des cultures de soja en Argentine. Et maintenant, on voit apparaître des mauvaises herbes qui sont résistantes. Et les Argentins, les cultivateurs argentins, sont obligés de recourir à des anciens herbicides beaucoup plus toxiques parce que ces mauvaises herbes sont devenues résistantes. Mmh. Le même phénomène est en train d'apparaître aux États-Unis, où récemment, 2500 hectares ont dû être abandonnés à la culture parce qu'une espèce de plante invasive, l'amarante, était devenue tolérante à ce même herbicide. On voit apparaître les premiers problèmes. Et ce que je dirais, cette année, je pense, est relativement crucial, j'allais dire, parce que pour la première fois, on commence à voir une réduction de certaines cultures d'OGM. En Europe, un grand nombre de pays ont arrêté, comme la France ou l'Allemagne, où on réduit les surfaces. Et cette année, pour la première fois aux États-Unis, il y a plus d'agriculteurs qui ont demandé à revenir à des semences non OGM parce qu'ils se rendaient compte que ça commençait à leur coûter de plus en plus cher.
Bien. Merci de ces explications, Arnaud Apothécaire. On n'a malheureusement pas le temps de développer davantage ce sujet particulièrement important. Nos auditeurs, d'ailleurs, peuvent retrouver toutes les informations que nous venons d'évoquer sur votre site, j'imagine, greenpeace.org. On fait le point de l'actualité, on poursuit notre émission dans un petit peu plus de 3 minutes. Bon courage, merci, à bientôt.
Merci à vous.